Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106. Aujourd'hui au programme, les interviews de Cyril Cyril et Altingun.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Cyril, Cyril, ce soir un groupe de l'écurie Born Bad Record avec un ancien membre des Suisses qui aime la Nouvelle-Orléans et son versant acadien. Les Mama Rosine et un percussionniste qui participe à de nombreux projets aventureux genevois. Ensemble, les deux Cyril créent logiquement Cyril Cyril. Et ils nous proposent une musique et des chansons qui embrassent l'histoire de l'humanité quasiment, qui parlent des empires que construisent les humains sur la Terre et de leur effondrement. Comme si, en toge, nous écoutions les bardes des années 2010. Nous raconter le passé qui serait aussi un peu notre futur dans un grand cheminement cyclique. Bonsoir à tous les deux.
C'est magnifique cette présentation.
Yes. Bonsoir. Salut. J'ai travaillé, ouais.
Ah, c'est super. C'est plaisir.
Certaines ruines, c'est le nom de votre disque. Alors notez que ce matin, dans les pages du premier quotidien francophone au Liban, L'Orient, Le Jour, on apprenait que le musée du Louvre proposait une plongée dans l'histoire des petits royaumes anatoliens, nés sur les ruines de l'empire hittite. Ouais. Et conquis par les Assyriens dans une exposition qui présente pour la première fois en France les vestiges de Tel Halaf, un des sites majeurs du patrimoine syrien, qui fut d'ailleurs à l'origine de la diffusion de la langue araméenne dans tout le Proche-Orient. Est-ce que ça évoque quelque chose chez vous ?
Oui, carrément. J'ai adoré lire l'histoire des premières civilisations moyen-orientales quand j'étais ado, en fait. J'aimais ça. Il y en a d'autres qui aimaient plus la Grèce antique ou les Romains. Moi, j'aimais bien ça parce que je viens de là-bas, en fait. Enfin, l'histoire de ma famille, c'est des déplacements, on va dire, du Caucase, enfin de l'Arménie. Non, pas vraiment du Caucase, mais de l'Arménie, de la Grande Arménie avant le génocide. Puis la Syrie, dictature militaire. Puis le Liban, guerre civile. Puis etc., etc. Et en fait, je viens de plein d'endroits de cette région-là. Et c'est vrai que ça m'a toujours assez intéressé. Et comme tu l'as bien expliqué, les empires se font et se défont. Et là-bas, c'est un sacré, une sacrée vitrine de ça, de ce phénomène-là, cyclique. Et donc, c'est vrai qu'il y a un lien avec ça. Et puis, pas mal de ma famille vit encore à Beyrouth, donc... Je vais leur dire d'aller voir cette expo. C'est à Beyrouth, hein.
Alors,
c'est au Louvre.
C'est à Paris.
Donc c'est moi qui vais aller voir
ça. Il faudra le raconter après. Ouais. Avec Cyril Yeterian, il y eut Mama Rosine. You Broke My Stuff, évocation donc de Suisse, de la culture cajun, de Louisiane, que nous avions reçu à l'occasion des concerts d'inauguration du 106. Mama Rosine, 10 ans de votre vie à Genève. Durant ces 10 ans, Cyril Bondy, vous en avez entendu parler ? Vous en pensiez quoi de Mama Rosine ?
Alors, j'en ai entendu parler parce que c'était un peu le groupe du coin. Je les ai jamais vus en live et c'est pas du tout une musique que j'ai écoutée. J'ai pas découvert Cyril Yeterian par sa musique, en fait. C'est vraiment quelqu'un que je connais de réputation. Puis on a vraiment évolué un peu dans des milieux assez différents. Et du coup, voilà, je savais qu'il y avait un autre Cyril dans la ville qui faisait de la musique avec un groupe qui tournait partout. Et c'est lui.
Et c'est quoi sa réputation ? C'était quoi sa réputation alors ?
Du groupe, non, c'est une bonne réputation. C'était plutôt un peu la fierté locale, quoi, comme ça, comme groupe.
Fin de Mama Rosine, c'était en 2017. Comme toute civilisation, finalement, un groupe un jour, ça doit disparaître, Cyril Yeterian.
Ouais. Non.
T'annonces la fin proche.
Justement pas, en fait. Gardons espoir. Il y a pas, enfin, on n'est pas tous obligés de disparaître de cette manière-là, en s'effondrant. Mais Mama Rosine, ça s'est un petit peu effondré. On a trop tourné, je crois, mais on ne s'est pas assez occupé de nous-mêmes.
Ah, c'est ça, la vie de tournée vous fatigue, vous décidez d'ouvrir un magasin de disques, Cyril, à Genève. Bongo Joe, qui est aussi un label, vous organisez des soirées DJ dans votre sous-sol. Et d'ailleurs, la découverte d'Altingun, c'est vous, votre label. Il y a une histoire derrière la découverte de ce groupe ?
Ouais, donc bon, ça faisait un moment qu'on avait entendu parler de Jaco, on dit Jaco Gardner, grand ponte de la pop baroque psychédélique mondiale. Il a eu énormément de succès et puis c'est mérité parce que c'est magnifique ces deux premiers albums. Le dernier, il part un petit peu dans autre chose. Et bref, Jasper, le bassiste de Altingun, il faisait partie du groupe de Jaco Gardner, il jouait à Genève. Ils avaient entendu parler du label et du magasin. Et il y a quelques gros diggers justement dans cette bande-là, dont Jasper. Et donc ils sont venus au magasin voir parce qu'ils avaient entendu parler de ce qu'on faisait. Et là, donc après leur soundcheck, ils sont venus une heure au magasin. J'étais là, et puis on s'est rencontrés. Et à ce moment-là, il y avait Nick Moskowitz qui était en train de préparer son side project qui est devenu son groupe principal, qui s'appelle le Moskowitz Dance Band, qui était le batteur. Il y avait Jasper qui préparait son groupe à lui, en fait, qui s'appelait Altingun, mais à l'époque, il n'avait ni de nom ni de chanteur. En fait, il nous a juste envoyé les instrumentaux. Je suis passionné de musique orientale, voilà, machin. Et puis, un an après, on sortait des 45 tours de ces deux groupes qui étaient appelés à cartonner planétairement. Et puis, tout est parti d'une rencontre dans le magasin. Donc, c'est des moments qui sont assez forts dans l'histoire du magasin de te dire, il y a un côté un peu. D'avoir pignon sur rue, d'avoir les portes ouvertes. De les laisser ouvertes plus tard pour des mecs que tu trouves intéressants, puis qu'au final ils sortent sur ton label. Enfin, il y a quelque chose, il y a une belle histoire derrière. Donc voilà.
Cyril Bondy, vous avez œuvré dans des groupes comme Diatribe. Empire enclin au déclin, déjà un album logique du désordre. On note cette thématique déjà de l'empire en déclin. Alors.
Ouais, ouais.
Écoute, comme quoi vous deviez vous rencontrer tous les deux.
J'avais complètement oublié ce morceau et ce titre. Ouais. Non, ça c'est là t'es allé chercher dans du très très vieux de Diatribe. C'est un groupe avec lequel je joue encore, mais qui est vraiment parti sur cette base assez free jazz comme ça. Et maintenant c'est ultra XP, presque contemporain sur certaines compositions. Donc on s'est un peu détaché de ça. Mais c'est vrai que il y avait un peu ces thématiques là. Diatribe, c'est aussi un nom. Qui nous sied un peu moins aujourd'hui qu'à l'époque, quoi, mais qu'on a gardé parce que c'est notre identité.
Vous avez joué également dans l'Athènes. Avec ce morceau donc pas dit ici mais donc vous jouez encore dans l'Athènes. Ouais. On est donc pareil toujours dans cet univers un peu jazzy expérimental, on va dire.
Alors là jazzy peut-être pas, mais là c'est un trio Vielarou, harmonium indien et batterie, enfin percu. Et du coup alors c'est des très longs morceaux avec des motifs répétés, mais il y a vraiment un emprunt de musique traditionnelle, un travail un peu là-dessus. On s'en détache, on en fait une musique qui nous est propre, mais vraiment avec ce jeu d'aller chercher dans la répétition, dans la transe, dans des choses que tu trouves en fait à travers le monde. Et c'est un peu par le biais de ce groupe que j'ai rencontré Cyril.
Ah oui ?
En vrai, tu vois. C'est en fait au vernissage de l'album dont tu nous as fait écouter un morceau. Il était là en tant que DJ, donc c'était à Genève, à la Cave 12. On s'est rencontrés, il cherchait un local pour répéter avec des potes. Moi, j'en avais un. Du coup, je lui ai dit, viens,
tu peux
squatter. Maintenant, c'est lui mon pote. Et du coup, on s'est vraiment dit, et si on essayait de faire de la musique ensemble, avec ce background hyper différent l'un de l'autre, sans a priori, tu vois, moi, je connaissais finalement assez peu sa musique, et lui, finalement, assez peu la mienne. Et ça a créé ce truc un peu de réaborder la musique avec une forme de naïveté que tu perds avec le temps. Et la magie après de la rencontre. Quoi.
Vous avez joué également dans In Sub Meta Orchestra. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus expérimental.
Alors, c'est presque même contemporain. Ça, c'est un orchestre que j'ai fondé avec l'acolyte avec lequel je bosse dans Diatribe, dans l'Athènes, etc., qui s'appelle L'Incise. C'est un orchestre qu'on a monté en 2010 et ça réunit une cinquantaine de musiciens de Suisse, de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre. Et donc on est à peu près 35 à chaque fois, et je dirige l'orchestre, je compose avec d'incises, c'est moi qui fais le maître d'école, enfin le, tu vois, le, comment tu dis, le jeune organisateur, comme ça. Et donc voilà, ça, c'est
le gentil organisateur
Géo. Pardon. C'est un super projet, c'est un truc que tu peux, enfin c'est finalement une chance de pouvoir avoir 50 musiciens sous la main et puis te dire, bah, en fait, et faisons sonner cette idée que normalement tu peux faire avec 3-4 potes, mais là tu peux essayer de développer ça avec, avec un orchestre en entier, c'est génial.
Et c'est aussi une chance d'avoir plus de public que de musiciens.
Oui, c'est ça. Combien de musiciens exactement?
Ah bah on est 50 en tout.
Ah ouais, ouais.
Non, il y a des concerts qu'on commence, on commence par... en pensant qu'il y a du monde qui viennent nous voir, puis dès qu'on monte sur scène, on vide un peu la salle. Quoi.
Et puis ensuite, il y a ce groupe dans lequel vous avez joué pendant 10 ans, qui s'appelle Plaisto. Oh. Un extrait de Mimas dans votre bio, on parle d'un groupe de jazz médiumnique, d'hypnose acoustique.
Voilà, écoute, ça c'est un groupe, c'est jazz par défaut, parce que c'est un trio piano, donc grand piano, contrebasse, batterie. T'es obligé de jouer sur les scènes jazz en fait. Tu peux pas, on a essayé de s'encanailler, puis d'essayer d'être un peu plus rock et tout, électro, pas possible. Donc on a évolué. C'est pas de jazz, mais finalement c'est une logique normale de ce qu'un trio de jazz. Enfin voilà, l'idée de toute façon là, c'était aussi un emprunt de la formation trio jazz et puis de se permettre d'aller complètement dans des directions plus électro en fait dans la démarche d'écriture.
Alors forcément tout là-dedans il y a tout le temps la transe. On parle d'hypnose.
Voilà,
de
moi
médium,
j'ai un amour de la répétition, de ce travail-là, de faire tu vois, de pousser les sons, les rythmes dans des extrêmes pour voir qu'est-ce que ça génère en fait. Déjà simplement en tant qu'expérimentateur, tu vois. Et avec Cyril on fait ça aussi, même si on est dans des formats plus pop, tu vois, des morceaux plus courts, il y a quand même ce rapport aussi à des sons un peu, primitifs, j'aime pas trop, mais essentiels comme ça. Et voilà, on est encore dans ce...
Bon, on aime tous les deux ce format-là. Après, on a été rattrapés par une envie de faire quand même une espèce de pop, tu vois.
Ouais.
Donc en fait, de réduire le temps des morceaux, d'essayer de dire l'essentiel en quelques minutes.
C'est un beau challenge aussi.
Mais en fait, on se l'est pas du tout dit, mais c'est ça qu'on a fabriqué, je crois. Mmh. Des envies complètement en fait inconnues de nous-mêmes, mais je me dis, c'est vrai qu'il parle de parce que tu as par exemple Athènes, c'est un morceau par face, enfin c'est 20 minutes un morceau. Donc tu as un album de deux morceaux quoi. Et je me dis, mais moi j'adore ça, mais pourquoi on n'a pas fait ça avec Cyril? Ah mais oui, parce qu'en fait on avait envie quand même de chanter des chansons.
Mmh, c'est ça. Ouais.
Donc du coup c'est une espèce de convergence un petit peu bâtarde de plein d'influences.
Et puisqu'on parle des chansons, vous chantez en français, en arabe, on l'a dit, votre famille vient du Moyen-Orient,
ouais.
Vous dites même que c'est un lien aussi avec vos parents, vous avez renoué quelque sorte avec vos racines et avec vos parents, avec tout ça, grâce à Cyril en fait.
En fait, à cause d'eux, je parle mal l'arabe et grâce à eux, j'ai pu écrire des textes en arabe, donc. Tu vois, il y avait quand même j'ai fait un pas vers quelque chose qui me faisait un petit peu du mal, une épine dans le pied depuis toujours, c'est la transmission de la langue. Après j'ai des parents, je pense, qui ont un sacré bagage de vie et puis peut-être sûrement, je le sais, des traumatismes liés à la guerre quoi.
Mmh.
Et c'est vrai que dans tout ça, c'est quelque chose de tacite, c'est difficile d'en parler, mais c'est vrai que moi, je leur en ai toujours voulu de ne pas mieux parler l'arabe. Et de leur demander de me traduire des textes, parce que je suis trop mauvais en arabe, pour essayer de moi-même écrire des textes un peu complexes en arabe, je leur ai demandé de le faire. Ça m'a fait du bien, et à eux aussi.
Et vous empruntez aussi à la littérature dans certains de vos morceaux, Texaco de Patrick Chamoiseau, par exemple, Prix Goncourt. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet auteur un peu?
Moi j'ai lu ce livre-là, j'ai les autres qui sont sur une pile qui attendent. Il est passé d'ailleurs récemment à Genève, j'ai pas eu l'occasion parce qu'on jouait de le rencontrer. Et Texaco, ça m'a bouleversé, j'ai adoré. Sur le label, Bongo Joe, donc j'ai réédité un disque de flûte martiniquaise qui s'appelle La Flûte des Mornes, d'un flûtiste qui s'appelle Max Silla, qui est un peu le père d'une certaine musique qui a vraiment remis au goût du jour à l'époque, hein, c'est un disque des années 80, La Flûte et les Percussions. Et lui, et voilà, c'est un guerrier, il milite à fond, il est politisé. Dans toute cette scène, justement, un peu jazz contestataire, martiniquaise, comme on pouvait aussi retrouver ça en métropole. Et en fait, j'étais vachement lié à ce disque que j'écoutais beaucoup. Et en même temps, j'ai lu ce livre et ça a été c'était quelque chose d'une expérience assez forte pour moi. Et en lisant ce livre, y avait des passages, je me disais, mais faut que je fasse un texte avec ça, quoi. Et ça a inspiré le morceau La Ville.
D'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui fait lien avec Mama Rosine, puisque là, il y a l'histoire de la créolité aussi, la créolisation avec son aspect dramatique, mais aussi révolutionnaire et presque salutaire même.
Ouais, complètement. Les créoles de toute région, ils ont ce charme et ce drame, tu vois. Ils portent en eux quand même une histoire très lourde, tu vois. Et en même temps, c'est des langues qui chantent, c'est des langues, tu vois, qu'on peut considérer comme plus simples. En même temps, en fait, un mot peut vouloir dire beaucoup de choses. Et il y a quelque chose d'essentiel dans les créoles qui m'a toujours attiré. Et je reviens encore au label Bongo Joe. On a sorti Alain Peters, qui est le poète de l'île de la Réunion, qui chante en créole. Chantait, il est mort. Une compilation aussi de musique Sega, mauricien, etc. Puis bref, récemment, justement, je me disais, mais je fais des ponts. Les créoles français, Cajun du sud-ouest de la Louisiane, les créoles de la Réunion, et maintenant le créole de la Martinique. Puis tout ça, en fait, c'est la même histoire, tu vois. C'est l'histoire des colonialismes, c'est l'histoire de l'oppression, etc. Et Texaco parle de ça, en fait, tu vois. C'est quand même la société martiniquaise à l'époque de la colonisation, le rapport des blancs, des blacks, des blacks entre eux, enfin tout ce qui reste, la civilisation forcée, l'esclavage, enfin c'est un livre qui est vraiment incroyable et voilà, enfin tu me demandais de l'expliquer, je donne quelques mots clés.
Et juste alors, moi vous posez encore deux questions, Cyril Yeterian, vous dites que Certaines Ruines, c'est un disque de combattant qui a un point de vue politique sur comment mener sa vie, mais aussi sur la survie du musicien dans un pays comme la Suisse où tout est hors de prix. Vous nous expliquez ça?
Bah écoute, on n'a pas vraiment l'intermittence en Suisse. Et on vit dans, je crois, le top 5 des villes les plus chères du monde. Il y en a 2 ou 3 qui sont en Suisse. Et Genève, Zurich, c'est des villes hors de prix. Et c'est vrai que tourner à l'étranger, peu importe où, si tu veux, t'es dans la réalité. La Suisse, actuellement, c'est une espèce d'île de richesse, tu vois, au milieu d'une Europe qui sombre, tu vois. Et c'est pas dans l'Europe, espace Schengen, bilaté, enfin il y a des rapports commerciaux, mais on a encore des frontières comparé à. Et en fait, ce qu'on nous demande pour vivre, un musicien peut pas vivre genre autrement qu'en dessous du seuil de pauvreté, tu vois. En Suisse, alors, on se débrouille, on est des débrouillards, on a fait ce choix-là, le grand saut depuis des années et des années de vivre de notre musique. Mais donc même si tu tournes beaucoup, t'es pas dans cette espèce, excuse-moi du terme, genre de confort, parce que je pense pas que ça le soit, hein, pour n'importe quel musicien, mais on n'a pas cette espèce de sécurité mentale de l'intermittence. Donc voilà, on se bat tous les jours et tous les jours on se réveille, on se dit waouh, je vis de ma musique et je vis en Suisse où obligatoirement je dois dépenser 400 euros par mois rien que pour payer mon assurance maladie obligatoire privée. Tu vois, on n'a pas la sécu. Mon loyer, il est plus cher qu'à Paris, etc. J'ai des gamins, comment je fais, quoi? Et en même temps, on y arrive, mais c'est le combat.
C'est pour ça que c'est un disque de combattant.
Ouais,
aussi.
On est hargneux, tu vois, on se bat, quoi, en fait. Et puis ça, on est fiers de ça.
Et pour terminer, l'album s'ouvre sur le Colosse de Rhodes. par quel miracle, quelle magie nous tient debout, espoir absurde d'un monde meilleur, le feu, les planètes, des rires, des larmes, le Colosse de Rhodes, dieu du soleil, statue monumentale à l'entrée du port de Rhodes, il y a 2300 ans au pied fragile. Il se termine par une musique de transe un peu, qui nous élève, l'album, hein, nous élève, qui fait regarder l'horizon. C'est plutôt optimiste finalement.
Bah écoute, moi ce que j'aime bien avec ce disque, c'est qu'on l'a fait sans trop se poser de questions. On a écrit les textes sans trop se poser de questions. Et ce que ça donne, c'est des réactions hyper variées. Tu vois, il y a des gens qui pensent que c'est pessimiste, d'autres optimistes. Et moi je pense qu'on est plutôt des joyeux. On est hyper gays, on se marre trop, on fait les cons. Et en fait, cette musique-là, je pense que en fait, le message derrière, c'est ça, c'est plutôt optimiste.
Sauf qu'il y a aussi un peu de confrontation chez vous.
Bah
quand
oui,
même.
Bah bien sûr. Mais ouais. On va pas non plus
se dire de compétition. Genre, lequel des Cyril est le meilleur?
Oui, c'est ça.
Bah, c'est évident, non? Ouais.
Non, mais tu vois, le monde, c'est le grand bordel. Et en même temps, moi, je me réveille le matin, puis je me dis qu'il y a plein de belles choses sur cette terre.
Merci à tous les deux, Cyril. Cyril, on va vous
Merci
laisser aller manger avant le concert.
Oh yeah.
Excellente soirée à vous.
Merci.
On se demande par quel miracle ce quelque chose d'un peu magique nous lève, nous tient si ferme. L'espoir absurde d'un monde meilleur, l'émerveillement au quotidien à la vue du ciel et des étoiles, du feu qui nous garde éveillés des nuits entières, la compagnie d'eau de vie et de mort lente, hypnotisée en continu par la musique de toutes les planètes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes, et des rires et des larmes. Ne plus croire en rien et s'en aller brouter les inquiétudes ensevelies des mille autres quelque part. Et toujours jeune, on assiste à l'ascension des égos. On avale la jalousie, la gorge pique. On perd des frères et des sœurs et on échange. Blanc bec, faux soleil, grillé d'avance, temps perdu, âme d'année et karma gigantesque.
On accueille les membres d'Altin Gun, Maëv, Ben, Daniel et Ernie. Ok, c'est bon, j'ai bien dit. Hello, bonjour.
Bonjour, ça va?
Ouais, très bien, bravo, vous parlez français?
Un petit peu.
Ah, très bien, on fait l'interview en français?
What? Too fast, sorry.
Fondé à Amsterdam fin 2016 par un bassiste néerlandais, officiant habituellement avec le rétro-futuriste Jaco Gardner, c'est Jasper Verhulst. Jasper tombé amoureux de l'âge d'or Altin Gun en turc, de la scène rock anatolienne, et j'ai cru comprendre qu'une partie de l'histoire d'Altin Gun démarre avec cet artiste. Selda Bakan, la John Bass turque, vous nous parlez d'elle, de ce que ça a provoqué, cette découverte, ou quelle est cette chanteuse tout simplement?
I guess not just her.
Sur le plateau, il y a deux membres qui sont turcs et deux qui sont donc des Pays-Bas. Et pour l'histoire donc, de cette rencontre avec la musique de Zelda, c'était pour Ben et pour Jasper. Mais ce n'est pas seulement elle, c'est toute la scène turque derrière. Il y a eu des rééditions au Royaume-Uni de ces albums. Et donc après, ils sont allés à Istanbul où ils ont entendu la musique turque et... donc elle et d'autres chanteurs et chanteuses, et c'est ça qui a fait un peu démarrer le truc. Mais par contre, pour les membres qui sont turcs, ils ont entendu ça toute leur vie.
Ouais, c'est ça. Et comme ils ont sans doute entendu toute leur vie ce morceau qu'on va écouter maintenant, non, vous l'avez pas. Donc c'était Baris Manço. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet artiste là, parce que c'est un peu la même.
She's also very famous.
He is also very famous.
Can you tell us what it represents, what they represent, Zelda and
Well, I Paris. Guess they represent a certain culture from that era in the 70s. Where
Donc, ce qu'ils ont en commun, Zelda et Baris Manço, c'est en fait, ils ont fait un mélange, et ça a été les premiers, a été cherché dans les musiques traditionnelles turques et l'avoir mélangé avec le genre occidental. Et donc, ils ont fait ça dans les années 70, où c'était vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, qui s'est développé sous une forme de genre en tant que tel. Et apparemment, après, ce Baris Manço est devenu une star à la télé turque, mais c'était une autre carrière.
Et donc, dans les années 60-70, on parle véritablement d'âge d'or de cette scène rock turque. Et qu'est-ce que c'est que cet âge d'or, finalement ?
I mean, golden age, I mean, that's when...
Il y a eu des influences parce qu'à ce moment-là, il y a de la musique occidentale qui a pénétré jusqu'à la Turquie. Et donc, il y a eu les Beatles, Pink Floyd et d'autres. Mais par contre, le terme d'âge d'or ne correspond pas à la situation telle qu'ils la ressentent.
Un répertoire psyché turc 70s pour Altin Gün. Premier album On, sorti l'an dernier. Et voici donc déjà le deuxième, Jetse. Yolku, c'est le titre qui ouvre votre album. C'est aussi le nom d'un album et d'une chanson de Nezet Ertaş. Donc Nezet Ertaş, grande star de la musique turque, c'est un morceau qui date des années 60, ce morceau qu'on vient d'entendre. Comment est-ce que vous travaillez concrètement ? Vous allez chercher donc, ces morceaux, vous retravaillez les sonorités, les arrangements, comment ça se passe concrètement le travail ?
Sometimes I make demos for the songs at home.
Au départ, donc c'est Erdin qui écoutait ça chez lui, à la maison, avec ses parents. Et donc, c'est encore une fois, c'est des musiques qui sont traditionnelles. Et au final, il s'inscrit dans la droite lignée de ces artistes des années 70 qui vont développer cette rencontre entre le passé traditionnel et puis les musiques occidentales. Au début du groupe, il y a 2 ans et demi, on aurait pu considérer ces morceaux comme étant des reprises de ces morceaux-là. Et maintenant, comme ça fait 2 ans et demi qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent bien, ils ont vraiment développé l'esprit de groupe, ça transcende complètement l'histoire de la reprise et ça devient des nouveaux morceaux avec de nouveaux arrangements.
Alors, je ne sais pas s'ils sont allés jouer en Turquie, mais comment est perçue votre musique en Turquie ?
I mean, everybody knows these songs. See, like, these are the songs.
Ils ont joué de très nombreuses reprises en Turquie parce que en fait, ils viennent de là-bas. Et puis les chansons, c'est les chansons avec lesquelles ils ont grandi. Et tout le monde les connaît en Turquie, ces chansons. Et là, ils ont fait 3 concerts à Istanbul qui étaient complets. Ils ont joué à Ankara. Et en fait, les gens, ils viennent autant pour voir le groupe que pour écouter ces chansons-là. En plus, ils sont très, le public est très content de pouvoir entendre des chansons qui sont chantées en turc. Ils chantent avec le groupe dans les morceaux. Il y a une ambiance assez dingue. Et il y a certaines personnes qui sont venues voir Ben pour dire, bon, c'est des morceaux... avant que vous les jouiez avec vos arrangements, les aimez pas trop, mais entendu comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympa.
Sur la pochette bleue de ce deuxième disque, 3 lunes au-dessus d'un détroit, on imagine le détroit de Bosphore. Il y a une ambiance particulière sur le Bosphore, détroit d'Istanbul, la mégapole d'un côté, l'espace de l'autre, le lien entre la mer Noire, la mer de Marmara, mais aussi entre les continents asiatiques et européens. Est-ce que vous vous imprégnez de ça aussi ?
Really cool that you can sort of pick that meaning. But like to me, like.
Alors c'est pas le détroit de Bosphore à proprement parler sur la pochette, mais ça pourrait très bien l'être. Quand ils ont réfléchi à l'idée de la pochette au départ, c'était plutôt un artwork un peu vintage, genre les vieilles cartes postales de Noël. Mais en même, il n'y avait pas de message politique, mais il y avait quand même un concept. Et le concept c'était déjà de faire le contraire de la pochette du premier album, qui représentait plutôt le jour. Là c'est plutôt la nuit, qui est aussi la traduction du titre de l'album. Mais en même temps, cette idée d'avoir une rencontre, un mélange des cultures, un côté melting pot comme peut y avoir à Istanbul, ça leur convient tout à fait.
Et puis dans Altingun, il y a aussi Gino Grunenveld, percussionniste du groupe et issu du collectif populaire aux Pays-Bas Jungle by Night. Yeah. Jungle by Night avec Pompette, que nous avons reçu ici même il y a quelques semaines, musique du Nigeria et de Turquie, avec les Suisses de Cyril Cyril. Les accents sont orientaux, une forme d'hybridation de la musique que l'on doit à la mondialisation, évidemment, mais aussi à l'histoire des colonisations, des guerres, des migrations sur la planète. Avec la musique, on trouve une forme d'harmonie, finalement, à fusionner les cultures. Est-ce que la musique irait-elle un peu plus vite que les êtres humains ?
Of course.
It's way above us. Yeah. We have no.
Effectivement, la musique est bien plus forte que les individus. C'est une sorte de puissance primitive. Le son, c'est tellement puissant. La musique, ça fait partie de ça, quelque chose qui transcende les frontières, les genres, et qui réunit les gens en fait tout le temps, quelles que soient les origines, les cultures.
Merci Altingun. On vous retrouve
Thank
à l'affiche du festival Rock in the Barn qui se déroule les 14 et 15 septembre prochains près de Giverny à Vexin-sur-Epte. Merci beaucoup. Merci
de
à
rien.
Vous. Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour les interviews du festival Rush.
Aşk adamı ağlatır.